Comme je dis aux familles, mon rôle, c'est de permettre aux enfants de rester un enfant. Quand on arrive ici et qu'il y a l'annonce d'une maladie grave, très vite, on peut penser plus qu'à la maladie. Et il y a la maladie, les traitements, la maladie, les traitements. Et on oublie parfois l'enfant ou les parents, ça marche aussi. Et c'est vrai que bah moi, en tant qu'éduc, je me dis, mais mince, il y a quand même un humain derrière tout ça, derrière tous ces protocoles, derrière le nom des maladies qui souvent est quand même un peu barbare. On parle beaucoup en acronyme et ça veut à la fois tout et rien dire aussi. Et donc, c'est offrir un moment, plus, de façon plus pratique, à l'enfant dans la journée, pendant 1 heure, où je vais m'occuper que de l'enfant. Et je m'en fous de la maladie, je m'en fous des traitements. Alors, je les ai assimilés, je sais les enjeux, et c'est pour ça que justement, je peux passer au-delà.
Bonjour et bienvenue à toi. Une fois par mois, je te propose de boire un verre avec une créatrice ou un créateur de liens inspirants. Je m'appelle Anne-Paul, je suis coach professionnelle, animatrice et formatrice. Je travaille pour les secteurs du social et de la solidarité sur les thématiques d'accompagnement, de connaissance de soi, d'engagement et de pouvoir d'agir. Après avoir travaillé pendant 8 ans auprès des personnes à la rue à Paris, j'ai décidé de me former pour accompagner les professionnels et les bénévoles de ces secteurs. Ces personnes donnent tout, voire plus au service des autres, et je crée des outils pour les soutenir dans leur mission. Maintenant que j'ai différemment la tête dans le guidon, je prends le temps de réfléchir à 4 sujets qui me passionnent. L'être humain, la relation et les liens, l'engagement et la solidarité. Alors j'ai décidé de partager mes découvertes avec celles et ceux qui mettent la création de liens au cœur de leur vie. On va vérifier ensemble si, comme je le sens depuis toujours, la relation est vivante. Aujourd'hui, nous buvons un verre avec Nolwenn, qui est éducatrice de jeunes enfants dans le service hématologie de l'hôpital Robert Debré à Paris. Nolwenn nous parle de son métier, d'avoir toujours senti que sa place était à l'hôpital, de son travail auprès d'enfants très malades et de leurs familles. Elle parle du lien, du suivi, de la relation qui se crée, de l'attachement qui est plus fort et du deuil aussi. Nous parlons de cet univers où on prend soin des enfants, des parents, des collègues et dans tout ça du chemin pour prendre soin de soi. Ensemble, nous évoquons la nécessité d'être accompagné soi en tant que travailleur social et de comment on coupe, ou on ne coupe pas d'ailleurs, entre la vie professionnelle et la vie privée. Nous parlons de la sensibilité qui est une force dans nos univers où les enjeux humains sont élevés. Nous allons évoquer la maladie, la souffrance, la mort, l'accueil de tout ça. Des espaces pour le dire, des émotions que l'on vit et que l'on partage ou pas. Des deuils faits et d'autres qui font encore mal. Et finalement, en filigrane, c'est bien de vie dont on parlera. Bonjour Nolwenn, je suis contente de te rencontrer aujourd'hui. Qu'est-ce que je te sers ?
Un smoothie vitaminé.
Waouh, super ! Avec plaisir. Ma première question, c'est est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ?
Ouais. J'ai fait un bac sanitaire et social et j'ai eu la chance, juste après mon bac, de pouvoir entrer en école d'éduc de jeunes enfants, où je suis rentrée à 18 ans. Durant l'école, j'ai fait plusieurs stages, dont 2 à l'hôpital, ce qui explique pourquoi je suis actuellement à l'hôpital. Et à la sortie de l'école, j'ai travaillé dans une crèche pendant 1 an et demi, une crèche d'entreprise où j'étais responsable de section, donc pour un premier poste assez motivant, avec plein de challenges, où je suis restée 1 an et demi. Après, voilà, je suis partie puisque j'ai fait un burn-out. En fait, je sentais que ça ne me correspondait pas. Donc, j'ai pris un poste de responsable adjointe en crèche parentale.
D'accord. Oui.
Voilà, histoire d'avoir un peu moins de quantité de boulot.
Ouais, c'est ça. Continuer dans le burn-out.
C'est ça. Et je suis partie de mon poste en crèche parentale pour intégrer un relais d'assistante maternelle.
D'accord.
Là, cette fois, en remplacement de congé maternité. À la fin de ce remplacement, j'ai arrêté de travailler pour voyager un peu. Donc, je suis restée en Europe. Et j'ai arrêté de travailler 6 mois. Okay. Et pendant ces 6 mois, bah, il y a eu l'annonce pour le poste à l'hôpital Robert Debré. Mmh. Et je me suis dit, bah allez, c'est le moment ou jamais. C'est un poste dont je rêvais depuis super longtemps, en fait. C'était vraiment un service qui m'intéressait, un poste que je voulais. Et donc, j'ai postulé. Et après, plein de journées de sélection.
Ah oui, d'accord.
Et c'est qu'à la fin qu'on m'a proposé d'intégrer le service.
D'accord.
Donc, j'étais contente. J'y croyais pas du tout.
Ah oui, ok.
J'avais l'impression d'avoir complètement raté mes entretiens et ma journée d'essai. Et finalement, voilà, j'ai accepté le poste.
Ouais.
Et ça fait 2 ans que j'y suis.
Et donc, le service dans lequel tu es, qu'est-ce qu'il a de particulier? Et puis aussi, peut-être, pourquoi tu rêvais? Enfin, pourquoi ça t'a appelé, quoi?
Alors, le service est assez particulier pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on est le plus grand service d'hématologie pédiatrique de France, voire même service tout court.
Ah oui.
Puisqu'on a normalement 42 lits, ouais. Là actuellement 38, et c'est énorme pour un service hospitalier. Souvent, on ne va pas au-delà de 25.
D'accord.
Donc c'est une grosse équipe qui accueille principalement des enfants atteints de leucémie, donc le cancer du sang.
Oui.
Alors on a d'autres pathologies graves du sang qui sont un peu moins connues, comme la drépanocytose, les aplasies, qui sont des maladies qu'on découvre finalement quand on est plongé dans cet univers. Donc ouais, c'est un peu la spécificité, c'est que c'est des enfants gravement malades qu'on accueille de la naissance à 18 ans. Donc on est un service assez large dans tous les sens du terme, que ce soit par la taille, par le nombre de pros, par les pathologies rencontrées ou par la tranche d'âge d'enfant. Et c'est justement ça qui m'intéressait quand j'étais au lycée. Il y a plusieurs personnes très proches de mon entourage, en fait, qui ont été atteintes du cancer. Et ma façon à moi de me rassurer, ça a été d'ouvrir des bouquins de médecine et de potasser ce qu'est un cancer. Et ça m'a beaucoup rassurée. En même temps, ça m'a... Alors, je ne sais pas si passionnée, c'est le terme. Mais voilà, j'ai une attirance pour ce milieu-là, tout en me disant, mais je ne pourrai jamais travailler à l'hôpital, je suis hypersensible... Ça va pas le faire. Et finalement, mon premier stage à l'école d'éducatrice, c'était en crèche. Et j'étais très contente, je m'épanouissais, mais j'ai aussi très vite compris que ce n'était pas là ma place. Il me manquait quelque chose, je savais pas dire quoi, mais il me manquait quelque chose. Et je me suis dit, en fait, c'est l'hôpital. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est devenu presque une obsession. C'était, il faut que j'aille à l'hôpital, il faut que j'aille à l'hôpital, alors que je ne connaissais pas, que je ne savais pas à quoi m'attendre. Et je me suis dit, il faut que j'aille à l'hôpital dans des services de pathologie grave.
Ah ouais, d'accord.
Tout de suite.
C'est incroyable.
Donc ce qui m'intéressait, c'était soit de l'oncologie, donc les cancers, soit de la cardiologie.
Ouais.
C'était les deux services qui m'intéressaient beaucoup. Et j'ai eu la chance de faire 2 stages à l'hôpital, les deux en oncologie.
D'accord.
Avec un où il y avait quelques grands brûlés, mais principalement de l'oncologie. Et dans les 2 stages, le premier jour, c'était une évidence. Au bout de 5 minutes, je me suis dit, c'est là où est ma place. J'avais l'impression d'y avoir été depuis toujours. Enfin, je m'épanouissais, en fait. J'étais comme chez moi. C'était assez naturel. Et j'ai vraiment jamais vraiment su l'expliquer, en fait. Mais même encore maintenant, quand on me dit, pourquoi à l'hôpital? Bah, je ne sais pas, je me sens
ma place.
Bien, ouais. Voilà, c'est un poste qui me... un milieu où, qui me rassure en fait, où je me sens bien et voilà.
À l'instant, je suis hypersensible. Je pensais que j'y arriverais pas. Et du coup, ton hypersensibilité, j'imagine que c'est une force et aussi un... parfois, j'ai pas envie de dire une faiblesse parce que je crois pas, mais en tout cas, parfois, ça doit te jouer des tours dans un sens qui t'arrange pas beaucoup.
Ouais.
Est-ce que tu...
C'est tout à fait ça. J'ai appris à en faire une force et je me suis rendu compte que quand j'étais à l'hôpital en tant que pro, très naturellement, cette hypersensibilité, ça se transformait en force. Je pense en fait que justement pour travailler dans ce milieu-là et dans des milieux où on rencontre des situations graves ou en tout cas où il y a un vrai enjeu derrière, il faut être sensible. Alors c'est un peu particulier, mais c'est ce qui permet finalement d'avancer. En tout cas moi, c'est ce qui me permet d'avancer et de trouver du sens dans mon travail, dans mes pratiques, dans la relation à l'autre justement. Même si effectivement, parfois, ça me joue un peu des tours. Parce qu'il y a des moments, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et puis d'un coup, en rentrant à la maison, je m'effondre en larmes. Et puis bah, en fait, c'est un peu finalement le retour de bâton et les nerfs de toute la journée, la pression, la sensibilité de toute la journée qui était en force jusqu'à présent. Où bah, là, quand je quitte mon badge de l'hôpital, ça, y a tout qui redescend. Et voilà, quoi, c'est les moments un peu...
L'envers du décor.
C'est ça.
Ouais.
Qu'on n'ose pas toujours montrer.
Oui, c'est clair. Ça, c'est sûr. Et pour autant, ça fait partie de ta façon de vivre le métier.
C'est ça.
Merci, on va en parler tranquillement. Moi, ce qui m'a interpellée quand on a préparé l'interview, toutes les deux, au téléphone, c'est que tu me dis, t'as utilisé le mot c'est enrichissant, je sais pas, 4 ou 5 fois en 20 minutes. Et donc, j'avais envie de te demander qu'est-ce qui t'enrichit justement, c'est quoi qu'est-ce qui se passe ici pour que tu aies l'impression d'être plus riche.
C'est les autres. C'est rencontrer des personnes de tous les milieux, de tous les âges. De plein d'histoires différentes en fait, puisque la maladie elle touche tout le monde, du plus pauvre au plus riche, de la campagne profonde au Paris centre. Et finalement, je sais plus qui me disait ça, c'était un professionnel à l'hôpital qui m'a dit, moi, tout le monde laisse une part de soi à l'hôpital. Et c'est vrai en fait. Que ce soit les soignants, les parents, les enfants, ben on laisse tous un petit quelque chose qui va enrichir l'autre. Et finalement, c'est ce qui permet de grandir, de ressortir grandi de toutes les rencontres, même s'il y a des situations plus compliquées, des situations qu'on va peut-être plus garder en mémoire que d'autres. C'est vraiment les rencontres et puis aussi... le dépassement des limites. Je suis quelqu'un qui aime bien les défis, qui a besoin de se mettre en danger pour être, je sais pas si je peux dire efficace, mais me sentir
vivante.
C'est ça. Et donc, ici, on est quand même le service approprié en termes d'enjeux, de défis, de dangers. Et donc, voilà, c'est à chaque fois acquérir des nouvelles notions, que ce soit purement pratique ou juste dans sa façon d'être. Voilà pourquoi, pour moi, c'est enrichissant.
Super. Merci beaucoup. Et du coup, ton rôle auprès des enfants et dans ce service-là, qu'est-ce que tu fais ?
Comme je dis aux familles, mon rôle, c'est... de permettre aux enfants de rester un enfant. Quand on arrive ici et qu'il y a l'annonce d'une maladie grave, très vite on peut penser plus qu'à la maladie. Et il y a la maladie, les traitements, et on oublie parfois l'enfant ou les parents, ça marche aussi. Et c'est vrai que bah moi en tant qu'éduc, je me dis mais mince, il y a quand même un humain derrière tout ça, derrière tous ces protocoles, derrière... le nom des maladies qui souvent est quand même un peu barbare. On parle beaucoup en acronyme et ça veut à la fois tout et rien dire aussi. Et donc, c'est offrir un moment, de façon plus pratique, à l'enfant dans la journée, pendant une heure, où je vais m'occuper que de l'enfant. Et je m'en fous de la maladie. Je m'en fous des traitements. Alors, je les ai assimilés. Je sais les enjeux. Et c'est pour ça que justement je peux passer au-delà. Mais j'allais dire, si je dois me fâcher un peu envers un enfant parce qu'il a fait quelque chose qu'il n'avait pas à faire, je vais le faire. Peu importe qu'il soit malade, qu'il soit pas bien. J'allais dire, c'est presque pas mon problème. Et voilà, ça va être leur donner un peu un aperçu de la vie qu'il devrait avoir à l'extérieur s'il n'était pas malade. S'assurer qu'il continue de se développer. Parce que surtout les petits de moins de 3 ans, qui sont ceux que je prends en charge, bah, c'est le tout début de la vie. Il y a plein de choses, l'apprentissage de l'autonomie, de la parole, de la marche. Et il faut le maintenir tout ça et pas juste rester dans un lit d'hôpital devant la télé ou devant une tablette parce que bah, les parents sont épuisés et ça se comprend. Donc voilà un peu mon, mon travail auprès des enfants.
Et du coup, qu'est-ce que tu viens jouer avec eux ? T'apportes des livres ?
C'est ça. Ouais. J'essaye de recréer finalement une chambre d'enfant. Dans la chambre de l'hôpital avec des livres, des jeux, de la musique. J'utilise beaucoup, beaucoup la musique. En fait, j'utilise ce qu'instinctivement on utiliserait.
Ouais, c'est ça.
Et alors, on a quelques interdits, bien sûr, mais finalement, très vite, on peut trouver des solutions. Et c'est, oui, recréer la chambre d'un enfant, donc mettre de la décoration, installer un tapis au sol, avoir une petite caisse en plastique où ranger tous ses jeux, parfois mettre le bazar aussi.
Ouais.
Et voilà, créer un univers un peu plus enveloppant pour l'enfant et un peu moins froid que des murs blancs et un lit à barreaux en métal qui sont quand même un peu austères.
Oui, ouais. Et du coup, à chaque fois, avec chaque enfant, tu crées un lien, tu crées une relation.
Ouais.
Ils te reconnaissent, j'imagine.
Ouais, oui.
Il y a quelque chose qui passe.
Oui, oui. Et la relation entre chaque enfant est très différente. C'est vraiment propre à chaque enfant, à chaque parent et à chaque famille, plus globalement. Et effectivement, les enfants, c'est vrai, au bout d'un moment donné, connaissent, savent que quand j'arrive, c'est le moment où on met les parents dehors, les soignants dehors et qu'on joue.
Ouais, super. Ouais.
Et c'est souvent d'ailleurs qu'il y a même certains enfants, au bout de quelques temps, qui montrent du doigt la porte aux parents en disant « Bon, allez, oust, c'est mon moment.
»
Et c'est top. Enfin, moi, j'adore quand c'est ça, c'est que l'enfant se sent vraiment en confiance, qu'il y a une vraie relation qui s'est créée. Et bon, ça me fait un peu de peine pour les parents qui sont mis à la porte. Mais c'est aussi le jeu.
Ouais.
Et c'est, oui, construire quelque chose. Donc, avec certains enfants, il y aura peut-être un peu plus de distance que d'autres. Pour certains, les parcours sont plus longs. Donc, forcément, c'est presque faire un petit peu partie de la famille. J'ai des familles qui continuent de me donner des nouvelles, même après l'hospitalisation, parce que... Bah voilà, c'est normal, il y a une maman qui me disait « Mais vous nous avez accompagnés pendant un an, pourquoi du jour au lendemain vous donnerez plus de nouvelles ?» Et c'est super, tout comme d'autres familles disent « Non mais là, l'hôpital, stop, on en a marre, le prenez pas mal, mais on veut plus donner de nouvelles, quoi. L'hôpital est derrière nous et tant mieux aussi, c'est super que des familles puissent passer à autre chose. » Oui, la relation est propre à chaque famille, j'allais dire « J'ai jamais ressenti la même chose. » avec tous les enfants, quoi. Toujours très particulier très... comment dire ? Je veux pas dire presque une petite unité fermée, un petit cocon, mais finalement, si, parce que les familles ont besoin de soutien dans cette situation et souvent ont besoin d'avoir des personnes sur qui compter autour. Alors, le terme est fort en tant que pro de dire ça, mais c'est le cas de certaines familles qui voilà, nous investissent comme leur bulle à l'hôpital. Et... Enfin, je sais que c'est toujours volontiers que je fais partie de ces béquilles, je dirais, sur qui compter.
Et quand tu dis nous, là, c'est toi, les soignants, l'infirmière, médecin.
Oui, c'est l'ensemble, l'ensemble des pros. Je pense que... Alors, je ne veux pas parler pour les autres, mais pour échanger un peu avec mes collègues, on ressent tous la même chose, et que ce soit les auxiliaires, les infirmières, il y a une vraie relation qui se crée avec les enfants, et c'est pas juste des patients. C'est souvent que d'ailleurs dans les couloirs on entend « Oh bah, mes enfants !» Donc parfois justement, on a les cadres qui disent « Mais faites attention, c'est pas vos enfants, vous avez droit de les apprécier beaucoup, mais... qui nous rappelle quand même que bon, faut rester un peu à notre place, même si bien évidemment faut être là pour eux. Mais je pense que oui, c'est assez partagé dans l'ensemble du service, quoi.
Et tu disais que toi, tu voyais les 0-3 ans.
Ouais.
Pourquoi cette limite d'âge,
quoi. Oui, parce que bah, je suis la seule éducatrice, qu'on a beaucoup de lits, donc on a 38 lits. Et que si je veux faire du travail de qualité, je ne peux pas avoir les 38 enfants. Sinon, ça voudrait dire que je les vois une fois toutes les deux ou trois semaines. Et ce n'est pas le but. Je suis une travailleuse sociale, je suis une éducatrice, je suis une pro de la petite enfance. Et j'ai besoin d'avoir un suivi pour justement créer ce lien, pour que la famille me fasse confiance et pouvoir faire, j'allais dire, du bon boulot. Puis les plus grands, on les colle. Donc, ils ont quand même quelque chose dans la journée.
Ouais, c'est ça. Et tu parles beaucoup de la famille.
Ouais.
Donc, à la fois, tu es proche des enfants, tu le dis, hein, et c'est vraiment ce pourquoi tu es là. Mais la dimension familiale est très présente. Comment tu vis ça? C'est plutôt des relations qui vont bien ou parfois c'est difficile?
Déjà, je trouve que c'est une chance de pouvoir travailler avec les parents au quotidien. Ici, on a cette chance-là parce que les parents sont là 24 heures sur 24. Et je peux me permettre parfois de dire aux parents, aujourd'hui, on s'occupe pas de votre enfant, mais on va s'occuper de vous un peu. Et on va un peu discuter. Alors, je le fais une fois que les familles me connaissent suffisamment et ont confiance en moi, parce qu'il y a quand même dans la tête le côté éduc qui fait un peu peur hein, pour beaucoup de familles. Et voilà, c'est de savoir prendre le temps. Et surtout, forcément, l'enfant est malade, donc les proches des familles vont demander des nouvelles de l'enfant. Nous, on va demander des nouvelles de l'enfant. Et parfois, les parents, ils sont un peu oubliés. Alors qu'eux aussi, ils ne dorment pas de la nuit parce que l'enfant n'est pas bien. Eux aussi, ils n'ont pas le temps de manger parce qu'ils n'osent pas sortir de la chambre de leur enfant. Et parfois, de dire, bon, allez, maintenant, vous allez manger. Parce que vous n'avez pas mangé depuis hier. Moi, je reste avec l'enfant et allez-y.
Prenez du temps.
Voilà. Et ça, c'est vraiment le mot d'ordre pour tout le monde dans le service. On essaye de dire aux parents, mais prenez soin de vous. Prenez soin de vous, c'est important. Et oui, c'est pour ça que c'est important. C'est de ne pas oublier tout le monde. Parce que forcément, si les parents ne sont pas bien, l'enfant va le ressentir et va l'exprimer. Et donc, va pas être bien non plus. Donc, c'est essayer d'avoir aussi un regard vers les plus grands, vers la fratrie aussi, qui est souvent un peu oubliée, puisqu'ils ne peuvent pas venir dans le service.
Ah oui, d'accord.
Actuellement, c'est quelque chose qui commence tout juste un peu à se développer, des groupes de parole pour les fratries. J'espère que bientôt, on pourra faire plus de choses pour eux. Des fois, juste demander aux parents, quand je vais voir l'enfant pour une séance de jeu, dire et comment va la grande sœur, comment va le petit frère, on sent que ça leur fait plaisir. Et c'est avec plaisir souvent qu'ils répondent, et c'est ça qui fait un peu la différence avec les autres structures finalement.
C'est décuplé, j'imagine, par le 24 heures sur 24.
Oui.
Les familles, les enfants sont installés ici de fait, mais les familles s'installent aussi ici.
Aussi, les familles mangent ici, prennent leur douche ici, dorment ici.
Ah oui.
Ils font tout ici. J'allais dire, on a la valise de l'enfant, mais on a aussi la valise du parent à côté.
Il y a des lits pour les parents.
Il y a des lits pour les parents dans chaque chambre. Il y a juste les chambres de greffe. On n'a pas de lit, tout simplement pour des raisons purement techniques, c'est que il n'y a pas forcément de place, et puis surtout s'il faut intervenir en urgence et que le parent dort à côté, on peut être gêné par le lit des parents, et puis surtout on est quand même habillé en tenue de bloc opératoire, donc rester 24 heures sur 24 comme ça, à un moment donné je pense qu'on devient vite fou parce que on peut pas être libre de nos mouvements, on doit tout le temps tout contrôler. Et
toi-même, quand tu vas visiter les enfants dans les chambres, t'as une tenue particulière ?
Oui.
Du coup, t'es habillée comment ?
Alors, je suis en civil. Mais pour entrer dans les chambres, bien évidemment, j'ai le masque. Et j'ai ce que nous, on appelle une blouse, une surblouse. Je dirais que c'est un petit peu comme ce qu'on donne aux papas dans les salles d'accouchement. Donc, c'est les petites blouses bleues un peu fines. Donc, ça, c'est pour la moitié des chambres. Pour l'autre moitié des chambres, j'ai une charlotte, le masque, toujours.
Mais ça, c'est pas que le Covid, le masque.
Ah non, ça a toujours été. Pour nous, le Covid dans le service n'a rien changé.
Oui.
Et donc, bah, dans certaines chambres, une grosse blouse comme au bloc opératoire, très épaisse. On fait plusieurs tours sur nous.
Ouais, d'accord.
Voilà. Puisque là, on est en milieu stérile et donc, il ne faut pas que les vêtements touchent quoi que ce soit dans l'univers de l'enfant, en fait, dans la chambre de l'enfant ou l'enfant lui-même.
Donc, c'est vraiment une grosse préparation. Je veux dire physique, quoi. Enfin, en tout cas, physiquement, il y a quelque chose qui se passe.
Ouais.
Et tu me disais aussi que tu as un énorme temps de désinfection des objets.
Oui.
Et en effet, c'est un gros travail, ça fait partie de... Tu m'as dit, je crois, un rapport, une heure avec un enfant, c'est une heure de désinfection, c'est ce que tu m'as dit ?
Presque. Alors, presque. Il y a des choses qui prennent plus de temps à désinfecter.
C'est pas grave.
Je suis la vie à l'hôpital.
Ouais, exactement.
Un enfant qui n'est pas très content là.
Ouais.
Mais c'est évident que quand je ramène des livres, ça va être beaucoup plus long à désinfecter qu'une balle. Pareil, les cartes de jeu, ouais. Ça va être très long à désinfecter. Ah, bah oui. Puisque bah, la moindre carte de jeu est désinfectée. Donc quand les enfants veulent des Uno, des jeux de cette famille, du Monopoly, puisque tous les billets de Monopoly là aussi sont désinfectés.
Ouais.
C'est le moment où peut-être on aimerait changer de métier. Soyons très honnêtes.
Oui, c'est ça, oui, on peut comprendre. Mais tu me disais que tout était plastifié. Hein,
tout, voilà, tout est plastifié bah, pour que ce soit facile à nettoyer. Voilà, après, il y a aussi des séances où je me dis, voilà, soit je ramène rien, soit je ramène juste, je sais pas, un petit bâton de pluie. Et donc, dans ce cas... Bon, bah c'est beaucoup moins long. Mais oui, par jour, on peut très, très vite arriver. Alors, je dis on, parce qu'il y a aussi les enseignants, bien sûr, qui ont les mêmes problématiques. Les cours, il faut que tout soit plastifié. Très vite arriver à plus d'une heure de désinfection par jour.
Ah oui, c'est ça que tu me disais plus tôt. Une heure de désinfection par jour.
Oui, facilement, voire un peu plus, effectivement, quand on a des enfants qui demandent beaucoup de livres, beaucoup de jeux, avec plusieurs éléments.
En fonction de la taille de l'élément, ça...
C'est ça.
Du nombre et de la taille. Ce qu'on n'a pas encore abordé, mais je pense qu'il est vraiment filigrane de ce qu'on s'est dit, c'est que c'est un lieu de vie, mais c'est aussi un lieu où je pense que la question de la mort est présente, enfin la maladie en tout cas... La souffrance liée à la maladie et puis de la mort.
Ouais.
Et du coup, toi, comment tu vis ça? Comment vous vivez ça aussi en équipe?
C'est bien que tu poses cette question parce que justement, ces trois dernières semaines, on a eu beaucoup de décès. Là, j'avoue qu'on est tous un peu éprouvés.
Ouais.
Qu'il y en a plusieurs coup sur coup. On n'a pas forcément le temps de s'en remettre et de faire le deuil de chacun. Pour ma part, bon déjà, chaque décès est vécu différemment. Parce qu'on n'a pas, effectivement, comme je disais, il y a une relation différente avec chaque enfant. Quand on a des décès, forcément, c'est différent à chaque enfant. J'écris. Ça m'aide. Ça m'aide beaucoup d'écrire. D'en parler avec les collègues, effectivement. Il y a certaines personnes qui ont besoin de s'isoler avant d'en parler, d'autres qui ont besoin d'en parler tout de suite. Moi, personnellement, je suis plutôt du genre à vouloir m'isoler un peu toute seule avant d'en discuter. Simplement parce que j'ai beaucoup de mal à montrer mes émotions. Et donc, j'ai besoin d'un moment pour évacuer ce que j'ai évacué. Et ensuite, avec grand plaisir, j'en discute et il n'y a pas de souci, c'est important. Se faire aider aussi. Donc ça peut être bien de voir un psy à l'extérieur ou en tout cas quelqu'un à qui on peut partager ce qu'on rencontre. Plus globalement, en tant que travailleur social d'ailleurs, je le conseille fortement.
C'est nécessaire. ça fait partie des équilibres.
Tout à fait. Ouais. Et puis, ensuite, j'allais dire... Pour certains, on a le temps de s'y préparer un peu. Commence à faire le cheminement. Quand il y a des décès qui sont un peu plus soudains, on se retrouve un peu face à ça. je sais jamais en fait comment je vais réagir et ce dont je vais avoir besoin. Je sais que ça fait partie de mon métier. De savoir que ça fait partie de mon métier, ça m'aide beaucoup. Je me dis que déjà j'ai fait un premier pas, c'est que ça peut arriver. On en est tous conscients, on l'a tous dans le coin de la tête, même si on n'y pense pas tous les jours. Mais ça n'empêche pas que ce soit très dur et que certains deuils sont beaucoup plus longs à se faire, voire pas possible. Oui, j'ai certains décès d'enfants qui ont eu lieu il y a longtemps, dont certains dans mes stages, donc ça fait plus de 5 ans que voilà, je sais que j'ai toujours pas fait le deuil et je sais que c'est toujours compliqué quand j'y pense. Et d'autres qui sont pourtant beaucoup plus récents, où j'ai réussi à faire le deuil un peu plus facilement. Et voilà, d'où l'importance d'avoir quelqu'un avec qui en parler. Et voilà, qui nous aide à réfléchir sur déjà ce qu'est le deuil, pour nous, quand et. Enfin, qu'est-ce qu'on considère comme avoir fait le deuil. Et ouais, d'en parler. Ouais. C'est le mot d'ordre.
Ouais. Vous avez un espace de parole entre vous
Alors.
Ou c'est plutôt informel?
Oui et non. Il y a beaucoup, beaucoup d'informels. Beaucoup, beaucoup. Avec l'équipe, on commence quand même à se connaître. Même si on n'est pas forcément aussi proche de tout le monde, on a toujours quelques personnes qui le voient quand on n'est pas bien. Mais on a aussi une réunion, alors qui n'a pas lieu très souvent. Ce qu'on appelle la réunion d'essai. Donc ça porte bien son nom. C'est assez...
un chat.
Voilà. Non mais faut être honnête, souvent on n'ose pas dire le mot mort, on n'ose pas dire le mot d'essai. On dit souvent, il est parti, il s'est envolé. Et je pense que parfois c'est bien de dire le mot tel qu'il est, même si ça fait mal. Mais je pense que ça aide, mon avis personnel, mais voilà. Et donc on sélectionne quelques enfants qui sont décédés. J'allais dire, c'est horrible à dire, mais tant mieux si on n'a pas besoin de sélectionner, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de décès. Parfois, malheureusement, on est obligé. Et donc là, c'est une réunion ouverte à tous, où tout le monde a le droit de s'exprimer, où en fait, le médecin fait un peu le récit de l'histoire de l'enfant, puis laisse la parole à qui le souhaite. On n'est pas du tout obligé de s'exprimer, on peut s'exprimer, on peut ne pas être d'accord avec ce que quelqu'un dit, dans ce cas le dire. Le seul mot d'ordre est bien évidemment pas de jugement. On peut ne pas être d'accord, mais on peut le dire, mais dans le respect et sans juger. Et c'est des réunions qui je pense, sont essentielles, qui je pense aussi n'ont pas lieu assez souvent. Et parfois ont lieu vraiment à l'écart des décès, ça peut arriver que ce soit un ou deux mois après. Et donc, c'est un peu compliqué parfois de réouvrir le livre et de se replonger dedans. Mais je pense que d'un côté, c'est peut-être pas plus mal et ça permet d'avoir un peu de recul et de voir ce que ça nous fait, ce que ça me fait à distance. Mais je pense qu'il y a encore du travail à faire sur l'accompagnant, sur les accompagnements des aidants, des accompagnants, au sens large du terme actuellement, ça c'est sûr.
Du travail avec la possibilité de parole, c'est ça que tu veux dire, davantage de possibilités de parler.
Ouais. Même s'il y a déjà pas mal de choses, on se dit tous parfois, on a hâte que la réunion arrive parce qu'on a besoin de s'exprimer, quoi.
Ouais. Je voulais te demander si les enfants, eux, quand tu es avec eux, ils prennent vraiment l'instant de jeu, comme tu le disais, ou parfois ils parlent aussi, ou ils évoquent, parce qu'entre 0 et 3 ans, mais quoi qu'à 3 ans, on peut avoir. Ils commencent à avoir des questions existentielles ils comprennent bien ce qui se passe pour eux. Donc,
Oui, clairement. alors, pour les petits qui ne savent pas encore parler, ça peut arriver qu'il y ait des séances. Bizarrement, dans des moments critiques, dans des moments où les parents sont reçus par les médecins, c'est jamais au milieu d'un moment où...
tout est préparé.
Voilà, tout va bien, c'est pareil, c'est jamais le moment où moi je suis prête à accueillir ça, souvent. Mais ça peut souvent être des grosses crises de larmes que je n'arrive pas à calmer. Ou d'un coup, l'enfant qui est agressif. Alors qu'à l'hôpital, moi en tant qu'éduc, c'est très rare que je fasse face à de l'agressivité. Ou tout simplement des enfants qui se mettent un peu en condition d'hospitalisme et qui ne veulent rien faire, se laissent complètement faire, sont des poupées de chiffon. Et voilà, c'est souvent des moments où ensuite, quand je me renseigne avec les médecins, les infirmières, les auxiliaires me disent « Bah oui, on a appris une rechute, on a appris où la maman est enceinte, où les parents se sont séparés, où y a des effets secondaires. » Et je fais « Ah c'est bizarre !» Et puis, y a les plus grands qui commencent à parler. Ou les grands, parce que parfois ça arrive que j'aille voir aussi les plus de 3 ans qui là le disent très clairement, alors quand ils en ont marre ils le disent, quand ils sont fatigués ils le disent aussi, et puis la question du décès aussi hein. J'ai plusieurs enfants qui m'ont dit mais de toute façon je sais que je vais mourir. D'accord. Alors je vais rester un peu plus longtemps, on va discuter. Et c'est souvent des trucs qui sont très désarçonnants. Je sais que j'ai beaucoup d'étudiantes qui me disent « Ah d'accord, qu'est-ce que je dois répondre ?» Et je dis souvent « Tu réponds rien, t'écoutes. » Et c'est un peu ça, et avec les bébés, c'est pareil, c'est reformulé, expliqué. Mais oui, c'est des moments où les enfants souvent se dévoilent, et parce que je fais en sorte qu'ils ne me protègent pas comme ils protègent leurs parents. Et donc, c'est des moments où ils lâchent un peu ce qu'ils ont à lâcher. Parfois, devant le médecin qui décide d'un peu tout, c'est un peu dur de dire, pour être très vulgaire, mais ce que disent les ados, merde, quoi. Devant l'éduc, c'est quand même beaucoup plus facile. Et c'est souvent que, après un soin compliqué, je le paye un peu. Même s'ils ne se privent pas de le dire aussi aux infirmiers et aux auxiliaires. Les éduques, en tout cas l'éduc, moi, ils nous. Ils nous le font comprendre, soit ils nous le disent clairement. Et tant mieux, moi je suis contente. Un enfant qui se laisse trop faire, ça me pose question. Souvent quand on me dit, oh, il se laisse bien faire, je fais. C'est bizarre. Un enfant. Il y a toujours un moment donné où il a le droit de dire non, et c'est bizarre quand ça n'arrive pas.
Donc t'es préparée à ça, en tout cas, à ce que dans la relation que vous créez, dans l'instant que tu crées, il y ait ces enjeux-là aussi. Et j'ai presque envie de dire, à la fois c'est rassurant, je me souviens quand quand on recevait de la violence, on se disait, c'est aussi parce qu'il est en confiance, donc il y a quelque chose de rassurant, puis à la fois on se dit, quand même... ce serait bien, j'aurais pu m'en passer, quoi.
C'est exactement ça.
Mais en effet, c'est quand même un signe. On crie pas et on dit pas merde partout.
C'est ça.
Et à tout le monde. C'est bon signe pour la relation.
Ouais, exactement.
Tout à l'heure, avant de l'enregistrement, on parlait, puis je te disais que les infirmières ont une espèce d'injonction de laisser la blouse à l'hôpital et d'enlever la blouse et de laisser leurs émotions. Toi, comment tu coupes ou est-ce que tu coupes pas, justement, et qu'est-ce que t'emmènes chez toi, et comment tu vis avec ces limites qui existent ou qui n'existent pas?
Alors moi, mon plus gros problème, c'est que justement, j'ai du mal à couper. J'ai beaucoup de mal à couper du travail. Même en vacances, je coupe pas. Ce qui désespère mes proches. j'essaye d'utiliser le trajet entre l'hôpital et chez moi pour souffler. Et c'est un peu quand j'enlève mon badge où je me dis, là, je suis Nolwenn. Et quand je mets mon badge, c'est là, je suis Nolwenn éducatrice. C'est la théorie, c'est ce que j'aimerais savoir faire. Je sais pas bien le faire. Alors, à la fois, c'est bien et c'est pas bien. Je suis en train de faire un gros travail sur moi-même pour ça, justement. C'est que je crois que je vais avoir beaucoup de mal à changer. Et je ne sais pas si j'ai vraiment envie de changer. fois. Parce que les fois où j'ai réussi à vraiment couper, quand je suis revenue, ça a été hyper violent, du coup. Parce que j'avais oublié, j'avais déconnecté. Et oui, quand on revient, en tout cas quand je reviens et que je me reprends tout dans la figure, Je fais, oula.
J'étais bon, pas prête.
Alors finalement, quand je suis tout le temps en tension, je dirais, bah, je suis conditionnée. Et alors j'aime pas trop ce mot, mais parce que ça fait un peu robot quand même. Mais je sais à quoi m'attendre. Mais c'est aussi épuisant au quotidien de pas savoir couper. C'est compliqué à gérer parce que bah, effectivement le week-end il y a toujours ce mot de dire mais là cet enfant elle est pas bien, comment il va aujourd'hui. Donc voilà, donc là j'essaye de trouver un entre deux. Mais je suis très mal placée pour donner des conseils pour ça.
Ouais.
Parce que j'ai beaucoup de mal et je sais que mes étudiantes, mes stagiaires, je leur dis toujours, essaye de couper, essaye, vraiment. Et bon, elles se moquent de moi.
Ouais, mais de toute façon, je crois que c'est difficile. Enfin, je sais pas qui et comment les uns et les autres arrivent à le faire, mais... J'imagine qu'il y a quand même une façon de prendre soin de toi, en fait, pour arriver pleine d'énergie. Parce que je pense que, voilà, tu peux, il n'y a pas... Enfin, voilà.
Puis, oui, oui.
Souvent, les enfants, quand on ne va pas bien, ils nous font savoir où il a
clairement
payé assez vite. Donc, j'imagine que tu te conditionnes, comme tu le disais. Comment tu prends soin de toi, alors? Comment tu, comment tu fais?
Très bonne question. J'ai le droit de dire aussi que tout le monde me gronde parce que je prends pas assez soin de moi.
Ah bah oui. Oui, oui, t'as le droit.
Voilà, c'est... Ah. Le prendre soin, je le fais. Avec les autres. Pas toujours avec moi. C'est pas pour rien, je pense que j'ai fait un burn-out. C'est que justement, je suis allée trop loin. Après, bah encore une fois, c'est l'écriture. Je sais qu'il y a des moments où j'en peux plus, où j'ai juste envie de dire stop, j'arrête tout, je me casse au bout du monde. Je me dis non, je me pose, je mets sur le papier ce que j'ai sur le cœur, et ça va mieux, c'est un peu mon moment à moi. Y a ma famille aussi, mes amis. Un repas avec ses proches, ça fait toujours du bien, une petite soirée. Ça m'aide beaucoup, c'est des moments où j'arrive un peu à déconnecter et à prendre soin de moi. Et puis le voyage. C'est les moments j'adore voyager, enfin j'ai besoin de ça pour être bien. Et c'est les moments où je me dis bon bah là je prends soin de moi et voilà. J'arrête de me préoccuper tout le temps des autres. Et c'est moi et moi.
Ouais, super, merci beaucoup. De rien. Et du coup, en fait, moi, pour t'interviewer, enfin, avant de t'interviewer, je te suis sur Instagram, je suis ton compte sur Instagram, sur lequel tu postes régulièrement soit des photos, des jeux, tu parles de ton travail, enfin, tu vas nous dire exactement ce que tu fais. Ton compte s'appelle Chronique d'une éducatrice, c'est ça. Et du coup, pourquoi t'as créé ce compte et qu'est-ce que ça t'apporte
Alors, j'ai créé ce compte pour plusieurs raisons. La première étant qu'à mon époque, alors j'ai l'impression d'avoir 50 ans quand je dis ça, mais il y a 5-6 ans, quand j'étais à l'école d'éduc, Instagram, c'était un peu le début, ça n'existait pas encore trop. Il y avait quelques blogs d'éduc, mais assez peu. Et alors, d'éduc à l'hôpital, là, il n'y avait rien. Et ça me manquait. Je me souviens très souvent avoir dit mais j'aimerais bien pouvoir échanger avec des pros qui travaillent à l'hôpital, j'aimerais bien pouvoir lire ce qu'ils font, comment ils vivent leur métier. Et ça m'a vraiment beaucoup manqué en fait, parce que même dans les livres, des livres d'éduc à l'hôpital, il n'y en a pas. C'est des livres de psy, de médecin, de tout ce qu'on veut, mais d'éduc, non. Et même encore maintenant, je crois qu'il n'y en a pas. C'est un peu dur. Même pour le mémoire, faire un mémoire sans support, c'est pas facile. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je faisais lire mes textes à mes parents. Et à l'époque, j'aimais pas du tout la façon dont j'écrivais. Et même encore maintenant, j'aime toujours pas, mais bon. Et mes parents m'ont dit, mais fais quelque chose de ces textes. Ils sont pas parfaits. Tu feras pas le prix Nobel, Goncourt avec. Mais tu as le mérite de dire tout haut, ce que certains peut-être pensent tout bas mais n'osent pas dire pour certains textes. D'autres, des choses qui peuvent me paraître évidentes mais qui ne le sont pas forcément quand on n'est pas dans ce domaine. Et voilà, donc faisant quelque chose. Et puis on a l'air des réseaux sociaux. je suis pas mal de comptes d'éduc, de comptes de pro de la petite enfance, de psy, enfin du domaine de la relation à l'autre, de l'humain finalement. Et je me suis dit, pourquoi pas moi ? Il y a peu de comptes d'éduc à l'hôpital. Alors il y en a quelques-uns qui d'ailleurs sont vraiment super, mais pas tant que ça. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Puis je verrai bien si ça intéresse, si ce n'est qu'une personne, j'aurai réussi. Et en fait, ça intéresse du monde et pas que des éducs. Et je trouve ça super. Et je dis souvent, mais posez-moi des questions, je suis là pour échanger. Enfin, avec les étudiantes, c'est toujours avec plaisir que je libère un peu de temps pour pouvoir échanger avec. Parce que je trouve que c'est le rôle des réseaux. On critique beaucoup les réseaux et je suis totalement d'accord souvent avec les critiques et j'ai tendance moi-même à beaucoup les critiquer, mais ça fait aussi de belles rencontres. La preuve aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
Et voilà d'où le compte Instagram, pourquoi il est né. Chose auxquelles je ne m'attendais pas, c'est que j'ai pris confiance du coup dans ce que j'écrivais et que maintenant je prends plaisir à publier ce que j'écris. Alors parfois, c'est pas forcément des textes très fous, hein. Ça fait d'ailleurs longtemps que j'ai pas posté d'écrit réellement. Mais voilà, il y a quelques textes qui me tenaient à cœur moi personnellement, mais où je pensais que ça n'intéresserait pas du tout. Finalement, j'ai eu des très beaux retours. Et voilà, très égoïstement, mais comme quoi, faut prendre soin de soi parfois. Ça fait plaisir de se dire que finalement, ça peut intéresser. Je suis pas la seule à traverser certains questionnements, que j'ai pas en avoir honte. On en parlait un petit peu avant. Et que sans le dire, on traverse tous la même chose. Pas forcément de la même façon, pas forcément dans les mêmes lieux, du même métier. Mais qu'à un moment donné ou un autre dans sa carrière, dans sa vie, on est amené à avoir ces questionnements. Donc voilà.
Ouais, super. C'est vraiment intéressant. En tout cas, moi j'ai beaucoup plaisir à te suivre.
Bah merci.
Et j'ai même regardé le flash mob là.
Waouh.
Et qui est vraiment super. Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as créé un lien avec quelqu'un, ou tu vois, un lien particulier, ou que quelqu'un est venu vers toi pour créer un lien, et qu'est-ce que tu as ressenti ?
Je dirais qu'actuellement, c'est avec une des mamans du service, qui n'est pas du tout la maman d'un petit, qui est la maman d'un grand. Et c'est justement Septembre en or, toutes les actions que j'ai mises en place qui m'ont rapprochée de cette maman. Et je m'y attendais pas, parce que de nature, je suis une timide maladie, enfin c'est compliqué.
Oui.
Alors comme quoi en fait, éduque, travailleuse sociale, est très timide, mais je prends vraiment sur moi à chaque fois pour aller voir les familles. Une fois que je connais, ça va, mais pour me présenter, c'est toujours des grands moments de solitude. Et cette maman, est venue avec tout son cœur, toute sa générosité. Et je dis souvent, mais j'aimerais trop vous embaucher, parce que vous serez parfaite, en fait. Et puis, même quand il n'y a pas d'action, quand il n'y a pas de fête, il y a toujours un petit mot. Dans les couloirs, m'aperçoit, oh, bonjour, vous allez bien. Et puis finalement, on discute un petit peu. Et je ne m'y attendais pas du tout, et ça me touche beaucoup. Parce que dans le sourire, dans les remerciements, je me dis que ce qu'on met en place, là pour le coup j'inclus tout le service, c'est pas pour rien, et que voilà quoi, que des parents trouvent la force de nous remercier, d'avoir toujours le sourire, d'être toujours partant, de mettre la bonne ambiance, la bonne humeur, même dans des moments compliqués de leur vie, finalement c'est que j'ai un petit peu réussi ma mission. C'est hyper gratifiant. Mais je dirais que c'est ça pour le moment.
Merci beaucoup. Est-ce que tu penses, ou est-ce que t'as un secret pour toi, pour créer du lien, créer de la relation ? Est-ce qu'il y a quelque chose, t'as l'impression que tu...
Très bonne question. C'est d'être naturel. Je suis la reine des gaffes. Tout le temps. Je suis une catastrophe pour ça, j'oublie tout le temps tout, je me trompe toujours de mots, je fais toujours plein de fautes de conjugaison parce que je fais pas attention, enfin voilà. Et souvent les familles ça les fait rire. En début ils se disent un peu mais qu'est-ce qui c'est quoi ce truc, et finalement ensuite ça les fait rire, et je pense que sans le vouloir et parce que moi je suis mal à l'aise, et finalement ça brise la glace. Et alors, c'est des stagiaires qui m'avaient dit, mais souvent il y a plein d'éducs un peu hautaines. Alors je vais pas faire des amis en disant ça, mais qui peuvent paraître en tout cas, parce que je pense que pour être élu, c'est difficile de l'être réellement, mais qui au début, c'est une façon de se protéger, mais voilà. C'est vrai que souvent ils me disent, on a le même sentiment, tu fais peur au début, mais quand on voit que tu fais plein de gaffes, finalement, on se dit que t'es quelqu'un comme les autres. Ça me fait toujours rire parce que je fais pas exprès. Vraiment, je fais pas exprès de courir partout parce que j'oublie tout. Je fais pas exprès de me tromper de prénom, de plus savoir comment je m'appelle. C'est juste parce que je panique en vrai, que je suis pas à l'aise. Mais ça aide. Donc finalement, c'est ma timidité, mon hypersensibilité, je pense, qui sont mes secrets.
Ouais, super. Ouais, c'est clair. Ouais, ça fait une spontanéité, quoi.
C'est ça. Ouais. Oh, bah, c'est nature.
Et la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est quoi pour toi oser la relation ?
Savoir prendre des risques. Savoir se dire, bah, peut-être que je vais trop loin, mais peut-être aussi que ça vaut le coup. Et avoir le recul pour oser sauter et prendre des risques. Mais ouais, je pense qu'on peut... C'est difficile d'oser la relation si on ne se met pas un petit peu en danger. Et si on ne se met pas des petits coups de pied au cul pour tenter des choses. Et parfois, ça échoue. Mais souvent, ça marche. Et ouais. Prendre des risques, oser. Alors, on est mesurant, hein, attention. Mais tenter, tenter. Pas avoir peur du non, pas avoir peur du refus, pas avoir peur. Voilà.
Super. Merci beaucoup, Nolwenn.
Bah, de rien.
Si tu as aimé cette interview, n'hésite pas à rebondir et à m'envoyer un petit message. Je suis intéressée de savoir ce qui t'a parlé et interpellé. Tu peux m'écrire à annepaul@osonslarelation.com. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Si tu veux en savoir plus sur Osons la Relation, tu peux t'inscrire sur le site www.osonslarelation.com. Tu recevras deux fois par mois une invitation à faire une pause et à t'inspirer. Enfin, partage à qui tu le souhaites ce podcast. Comme tu le sais si bien, plus on est de fous, plus on rit. Et plus on est de créateurs, plus il y a de liens. En attendant de boire un nouveau verre ensemble avec un nouveau créateur de liens, je te donne rendez-vous le 5 dans ta boîte mail pour faire une pause café et découvrir une nouvelle inspiration. À très bientôt !